information. Merci pour votre fidélité au programme.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis à partir de 19h temps universel. Ce soir, nous allons faire le point de la participation des athlètes africains aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants dans ce studio avec moi. On ne le présente plus, Lawal Ting Kosovo. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de VOA Afrique.
De Cotonou au Bénin, nous retrouvons Albert Ogouredji du service des sports de Radio Bénin. Bonsoir Albert.
Bonsoir Élisée, bonsoir à toutes et bonsoir à tous.
En direct de Casablanca au Maroc, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis Amédine Sy nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Bienvenue à tous sur Sporama. L'édition japonaise des Jeux Olympiques s'est refermée après 17 jours de compétition avec un bilan plus ou moins positif pour l'Afrique. 37 médailles dont 11 en or. Amine Birouk, l'Afrique fait un peu mieux qu'à Rio au niveau de l'or, porté notamment par la belle quinzaine de l'Égypte.
Tout à fait léger, excellent comportement des sportifs égyptiens dans leur ensemble pendant cette édition. Ils ont contribué à augmenter la moisson de notre continent pendant ces Jeux. L'Égypte, qui partit avec une délégation excédant les 140 sportifs, et qui s'est comportée honorablement dans des disciplines aussi diverses que les arts martiaux, taekwondo, karaté, pentathlon moderne, qui aurait pensé qu'un Égyptien pouvait gagner une médaille olympique, comportement honorable en handball où ils ont frôlé la médaille de bronze, et puis dans leur ensemble, les Égyptiens se sont qualifiés pour des multiples finales, comme dans les sports équestres, sur l'obstacle, ou encore dans la gymnastique rythmique ou la natation synchronisée. Il faut dire aussi que les bastions de l'athlétisme africain ont été préservés, tout comme dans les différents arts martiaux, les sports de combat, quelques breloques dans d'autres disciplines. Autant dire que l'Afrique a avancé substantiellement en termes de médailles. Maintenant, il va falloir peut-être redoubler d'efforts davantage pour la prochaine édition de Paris, histoire de sortir des bastions traditionnels de notre continent et continuer à gagner des médailles dans des sports où nous ne sommes pas habituellement attendus.
Albert, c'est donc le Kenya qui est la première nation africaine au classement des médailles.
Oui, le Kenya place forte. Parlant de Jeux Olympiques, surtout en athlétisme, a encore tenu son rang avec sa 19e place mondiale et son premier rang africain, 10 médailles, dont 4 en or. Sur ces dernières éditions des Jeux Olympiques, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie sont souvent les mieux classés. Mention en spécial pour cette édition des Jeux Olympiques à l'Ouganda, qui s'en sort avec 4 médailles, dont 2 en or, et surtout l'Égypte, qui a fait une belle percée avec pas moins de 5 médailles ramenées de Tokyo. Bravo à l'Afrique. Si le verre est vu à moitié plein, l'Afrique a quand même 11 médailles d'or à Tokyo, et si le verre est vu à moitié vide, c'est quand même 8 médailles de moins qu'à Rio, où les Africains avaient remporté 45 médailles contre 37 après. L'autre bonne nouvelle, c'est que 13 pays africains, comme à Pékin en 2008, ont ramené au moins une médaille, avec surtout la bonne nouvelle pour le Burkina Faso et Hugues Fabrice Zango, qui a ramené la première médaille de l'histoire de ce pays au triple saut.
Amédine Sy, comme d'habitude, c'est essentiellement en athlétisme que l'Afrique a été la plus forte. Et comme à Rio, le taekwondo a été le sport numéro 2, malgré les contre-performances de certains favoris.
Tout à fait, Élisée, l'athlétisme a été une nouvelle fois plus forte, car sur les 37 médailles remportées par le continent africain, les 27 nous viennent de la première discipline olympique. En effet, l'athlétisme a glané 23 médailles, 8 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Sachez, Élisée, que les Kenyans se sont taillés la part du lion en remportant 10 médailles, 4 en or, autant en argent et 2 en bronze. Les athlètes kenyans se sont une nouvelle fois illustrés de fort belle manière lors du marathon, du 5000 mètres, du 3000 mètres triple, du 1500 mètres et du 800 mètres Élisée. Ils ont été talonnés par les Ougandais qui arrivent loin derrière avec 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze. Le Maroc, le Nigeria, la Namibie, le Botswana et le Burkina Faso ferment la marche avec chacun une médaille. Élisée.
On reste avec vous à Médine. Le Sénégal, qui a porté son espoir sur Diatta en lutte libre, n'a obtenu aucune médaille au Japon.
Oui, Élisée, Adama Diatta était le dernier espoir du Sénégal pour une médaille olympique aux Jeux. Mais malheureusement, le lutteur sénégalais n'a pas fait mieux que ses compatriotes car il a été éliminé d'entrée. À l'heure du bilan, le Sénégal a honoré sa 15e participation aux Jeux olympiques depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale et revient encore une fois avec un 0 point Élisée. Pire pour cette édition, aucun athlète sénégalais n'a réussi à passer le cap du premier tour. En effet, les 9 représentants sénégalais sont passés à la trappe dès leur entrée en lice. Donc, il faudra encore attendre pour voir un Sénégalais remporter une médaille olympique après celle gagnée par Amadou Diaba en 1988. C'était à Séoul. D'ailleurs, la seule médaille olympique sénégalaise a été remportée par ce Amadou Diaba. Donc, le travail qui attend les responsables sénégalais est énorme. Élisée.
Amine, le Maroc s'en sort avec une médaille.
Le Maroc n'a eu donc qu'une seule médaille, une médaille en or, celle de Sofiane Bekali qui a mis fin à l'hégémonie kenyane sur le 3000 mètres steeple. Dans son ensemble, prestation très décevante des représentants du royaume chérifien. Il y a eu quelques éclaircies, même si elles n'ont pas été considérables, à savoir un bon comportement en canoë-kayak avec une place de demi-finaliste, la participation de la sélection de sport équestre en saut d'obstacle qui a frôlé la participation en finale. Ils étaient 13e, 10 premiers étaient admis. La golfeuse Mahdioui qui a fini dans les 40 premières, sans oublier peut-être la première participation africaine en triathlon avec Médis Dir, ou encore le bon comportement de l'épéiste Hassan Kourdi, éliminé en 8e de finale après avoir perdu 15-13 face au futur vice-champion olympique. Mais dans son ensemble, il va falloir que le Maroc revoie sa stratégie en termes de participation au JO, qu'il puisse avoir enfin des résultats avec une gestion cohérente, parce que finalement, on se rend compte que depuis 2004, les médailles remportées par le Maroc sont le fruit d'exploits individuels et non d'une stratégie concertée.
Le Bénin a une fois encore déçu par la prestation de ses 7 athlètes engagés. Sans être au pied du podium à l'issue de ces Jeux, ils ont tout de même amélioré leur record à l'instar de Noélie Yarigo, 800 mètres, et Odile Awanwano en étape longue. Le public sportif espérait surtout la première médaille olympique depuis l'indépendance. Le président du Comité national olympique nous fait le point de leur participation. On écoute Julien Minavoa.
Dans l'ensemble, de tous nos athlètes se sont très bien battus, en commençant par Yarigo, qui s'est offert très rapidement et sans grande difficulté les demi-finales d'une course très prisée, à savoir les 800 mètres. Aux Jeux olympiques, ce n'est pas vraiment de la sinécure. Ensuite est venu l'athlète des 100 mètres Kiki. Vous savez très bien qu'il a fait plus qu'il en a l'habitude depuis des années, et on parlera des deux athlètes de la natation qui ont fait pareillement chacun de son côté, sans oublier le tout premier qui est entré en lice en aviron, à savoir Prével Rekanti. Tous se sont très bien comportés, et en tant que président du comité olympique, je me dois de saluer leurs fédérations respectives.
Albert, le Bénin devra encore attendre pour inscrire son nom au palmarès des médailles.
Écoutez, pour le Bénin, les athlètes béninois sont simplement restés à leur place. Au regard des différents temps d'engagement, on ne pouvait pas espérer grand-chose à la limite l'amélioration des records personnels, ce qui est advenu pour certains de ces athlètes-là. Paris, c'est dans 3 ans, il faut revoir peut-être la politique, retravailler, parlant du comité olympique avec les différentes fédérations, pour que dans 3 ans, il y ait une nouvelle génération de sportifs béninois pour représenter le pays aux Jeux olympiques et à même d'avoir des résultats encore plus probants que les résultats vus du côté de Tokyo au Japon. C'est déjà bien que le Bénin, comme les athlètes africains, aient pu être présents à Tokyo après une année difficile due au contexte sanitaire. Mais il est temps que le Bénin, qui commence à aspirer à être une vraie nation du sport, commence par revoir sa politique pour que désormais la participation aux Jeux olympiques ne rime pas simplement avec la présence, mais rime avec des honneurs et pourquoi pas avec des médailles.
Lawal, on remarque cette fois que le continent reste moins dépendant des performances des athlètes d'Afrique de l'Est.
Oui, Élisée, la grosse surprise, c'est que cette fois-ci, certains pays comme l'Éthiopie et bien d'autres n'ont pas véritablement imposé leur marque, malheureusement. Mais il faut comprendre que la pandémie est passée par là et fondamentalement, on pourrait imputer ça à la pandémie, à la mauvaise préparation des équipes africaines par rapport à ces Jeux olympiques. C'est vrai que la pandémie a affecté tous les athlètes de façon générale, mais on a senti que les uns ont eu beaucoup plus d'organisation et se sont entraînés au mieux, du mieux qu'ils pouvaient d'ailleurs. Mais en Afrique, on s'est peut-être reposé un peu trop et les résultats sont là dans une compétition aussi importante, aussi professionnelle que les Jeux olympiques. Le moindre petit faux pas se paye cash.
Certains pays se sont révélés, notamment l'Ouganda et la Namibie, surtout avec Christine Mbouma.
Oui, les révélations, on en connaît à chaque édition des Jeux olympiques. D'ailleurs, chaque édition des grandes rencontres sportives. Et il faut véritablement être heureux pour ces pays-là. Mais on est déçu par beaucoup d'autres pays. La Côte d'Ivoire, qu'on espérait peut-être sur les marches du podium, on l'a pas vu.
L'Afrique du Sud,
non plus. Mais il faut féliciter le Burkina qui a réussi à engranger une première médaille, le Ghana aussi qui a eu une médaille. Donc fondamentalement, le bilan n'est pas que négatif pour l'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu des contre-performances, mais au plan comptable des médailles, il y a comme un petit boom. Donc c'est voilà. Déjà heureux pour les Africains, mais on a connu des déceptions. On aurait aimé, surtout en foot, que le Nigeria et le Cameroun puissent être plus trouvés de remplaçants. Malheureusement, les représentants africains n'ont pas été à la hauteur.
Et justement, Amine, l'autre déception dont vient de parler Lawal est au niveau des sports collectifs.
En général, les sports collectifs n'ont pas été très brillants, à l'exception peut-être du parcours quasiment sans faute de l'Égypte, qui a brigué une médaille, qui a cherché à tout prix à l'emporter, avec une défaite en demi-finale face à la France et un échec lors du match pour l'attribution de la médaille de bronze face aux Espagnols. Mais en football, il y a eu le fiasco de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire en quart de finale. En basketball, les équipes n'ont pas passé le premier tour. En handball féminin et en volleyball, il y a eu de multiples fiascos. Autant dire que c'est le gros chantier du sport africain. Pour l'instant, nous n'arriverons pas à engager des équipes compétitives lors de tournois olympiques et nous faisons souvent de la figuration.
Direction le Sénégal pour dire que Augustin Senghor, candidat à sa propre succession, a été réélu pour un 4e mandat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football avec 366 voix contre 123 pour son challenger Madi Touré. L'Assemblée générale élective a eu lieu au Centre international de conférence d'Abdou Diouf. L'actuel premier vice-président de la CAF est prêt à parachever le travail qu'il a entamé il y a 12 ans.
Ça va continuer encore, au moins pour un mandat, pour pouvoir bâtir ce Sénégal qui va gagner certainement tout ce que le peuple sénégalais attend, c'est-à-dire des titres, retourner en Coupe du Monde, développer notre football en infrastructure et pourquoi pas organiser une prochaine CAN ici au Sénégal. Oui. Parce que nous venons de démontrer avec ces élections aussi que nous ne sommes pas que grand pays de football que dans les terrains. Nous le sommes en haut d'or parce que je dois ici saluer quand même ces retrouvailles après les élections avec Madi Touré. Cela montre que dans notre football, nous sommes une seule famille.
Ahmedine, c'est une victoire sans surprise.
Tout à fait, Élisée. Il faut dire que la course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football était palpitante cette année. Elle avait suscité beaucoup d'engouement avec l'avènement des réseaux sociaux, car beaucoup de Sénégalais estimaient que Augustin ne devait pas avoir un quatrième mandat puisqu'il a fait 12 ans. Mais à l'arrivée, les acteurs du football ont opté pour la continuité en élisant Augustin Senghor pour le patron du football sénégalais. Cette victoire n'est pas une surprise. Après 12 ans à la tête de l'instance dirigeante du football, il explique vouloir parachever le travail qu'il a commencé dans l'unité Élysée.
Justement, Amine, on est tenté de dire que c'est un mandat du trou.
C'était prévisible depuis quelques semaines. Il faut dire qu'Augustin Senghor, qui avait annoncé qu'il n'allait pas briguer un nouveau mandat, s'est rétracté. Il semblerait aussi que sa tentative de présider aux destinées de la CAF et le choix de la conciliation et de la concertation avec Patrice Motsepe l'ait incité à vouloir reprendre du service pour un quatrième mandat. Il a pu chercher la voie de la concertation avec son challenger Madi Touré, mais finalement on est passé aux urnes avec cette victoire. Est-ce que c'est un mandat en trop? On ne le saura pas. On se dit tous que Augustin Senghor est derrière beaucoup, beaucoup d'évolutions dans le football sénégalais, au retour au premier plan des Lions de la Teranga. On verra si maintenant il va s'atteler à réformer le championnat sénégalais, à rendre plus compétitifs les clubs dans les compétitions continentales, à travailler dans les catégories de jeunes, des résultats qui n'ont pas été concrétisés lors de ces trois précédents mandats.
Albert, Senghor s'accroche malgré son bilan peu réluisant pour n'avoir pas gagné la CAN.
Bon, c'était attendu, c'est maintenant officiel. Augustin Senghor a un nouveau mandat de 4 ans, un quatrième mandat de 4 ans. Les signaux étaient verts pour lui avec le retrait de dernière minute de CRSEC, le patron de la Ligue, ou encore le ralliement du président du club de Mbou à sa cause. Sur quasiment 450 délégués, il a obtenu 325 voix. On est dans un plébiscite déguisé pour le président Augustin Senghor. Maintenant, il est attendu sur un chantier, aider quand même son pays à avoir des infrastructures de renom. C'est vrai qu'il ne revient pas à la fédération de bâtir ou de construire des stades, mais il revient avec son image. Quand vous entamez un quatrième mandat, c'est que vous avez quand même des bases solides dans le pays pour créer, pourquoi pas, la discussion avec les autorités compétentes et aider aujourd'hui le Sénégal, pays majeur du football sur le continent, deux fois vice-champion d'Afrique, régulièrement désormais en Coupe du Monde. Il faut que le Sénégal, qui a quand même Sadio Mané, a un stade digne et vraiment digne de l'image du football de ce pays-là.
Lawal, c'est dommage de voir le premier vice-président de la CAF ne pas tenir parole.
C'est bien malheureux qu'il n'ait pas pu tenir parole avec tout le temps qu'il a passé, malgré ce bilan pas très élogieux à tout point de vue, parce que le Sénégal n'a encore pas réussi à remporter une CAN. Il avait dit entre-temps que c'était son dernier mandat. Qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Est-ce que c'est parce que les compétences manquent au sein de la famille du foot sénégalais, au sein de l'instance dirigeante du foot? Je ne crois pas. Donc il lui fallu que l'on puisse à un moment donné respecter sa parole, parce que la parole est sacrée. Mais comme tout bon Africain qu'il est, Senghor, Africain bon teint, et il dit une chose et puis deux jours après ça peut changer. Donc c'est le changement, la dynamique du non-respect de la parole donnée, la parole sacrée qu'il a prononcée, c'est cette dynamique-là qui continue. Malheureusement, il aurait dû sortir par la grande porte et permettre à d'autres de faire leur expérience, mais comme il a voulu continuer, s'il ne se fait pas user par le pouvoir, c'est que le pouvoir il va s'user lui-même, malheureusement, Élisée, et c'est bien triste pour le continent.
Si en 12 ans il n'a pas pu faire quelque chose de grand, ce n'est pas en 4 années qu'il pourra le faire.
Non, Élisée, il peut réaliser l'exploit de battre le record des réalisations en 4 ans. Ce n'est pas exclu. Ce serait un exploit immense, gigantesque pour lui. Mais quand on fait le bilan des 12 années passées à la tête de la Fédération sénégalaise de foot, on s'est dit que c'était, en fait, c'est un mandat de trop. Mais quand on regarde un peu l'environnement du foot à travers le continent, on voit des gens qui ont une longévité beaucoup plus grande que celle de Senghor. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau qu'on fasse du surplace. On est coutumier du fait en Afrique, malheureusement. Mais j'estime que si sur la plusieurs centaines de délégués convoqués à cette Assemblée générale et que plus de 300 lui accordent encore leur confiance, c'est que certainement il a su manager à un niveau donné. Et il n'a pas fait que des déçus. Il a fait forcément des gens bien heureux. Donc il continue dans cette dynamique. On espère pour lui qu'il va remporter la CAN tant voulu, qu'il va peut-être faire des choses beaucoup plus grandes que ce qu'il a fait en 12 ans,
clubs,
et qu'il ne va pas décevoir toute la planète foot du Sénégal.
Ah, voilà.
Basketball, pour mettre un thème à cette émission avec le tirage au sort de l'Afro-Basketball féminin prévu au Cameroun du 17 au 26 septembre prochain. Les équipes qualifiées pour cette 26e édition sont déjà fixées sur leur sort. Ainsi, le pays hôte, le Cameroun logé dans le groupe A, se frottera avec le Cap-Vert et le Kenya. Alors, Albert, les Camerounaises sont attendues pour enfin inscrire leur nom au palmarès.
Bon, le Cameroun aura encore sa carte à jouer à domicile, mais c'est vrai que pour cet Afro-Basket féminin, il y aura encore, comme autre pays favori, le Nigeria, le pays champion d'Afrique. Il y aura bien sûr le Sénégal, recordman de victoire dans l'épreuve. Il y aura les demi-finalistes de la dernière édition, les autres demi-finalistes que sont le Mali et le Mozambique, qui seront des adversaires coriaces pour le Cameroun à domicile. Mais le Cameroun a justement la chance d'évoluer à la maison devant son public. Ça peut aider. C'est vrai qu'en 2015, le Cameroun n'était pas si loin, est arrivé en finale à domicile, battu par le Sénégal. Ce qui est aussi à remarquer, c'est que le Cameroun est en train de redevenir vraiment le centre du football, le centre, pardon, des organisations de compétition sur le continent. La récente CAN de handball, l'Afro-Basket féminin de basket, l'Afro-Basket féminin, ajouté à ça le CHAN et la CAN, le Cameroun est en train de redevenir une place forte en matière d'organisation de grands événements sur le continent africain.
Amine, les Nigérians, double tenante du titre, ont hérité de la poule B avec le Mozambique, auquel il faudra compléter le qualifié de la zone 6.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Nigériennes seront favorites à leur propre succession. Elles ont hérité d'un groupe à leur portée. Leur participation au JO de Tokyo est un élément qui va être pris en compte puisqu'elles ont le vécu des grandes compétitions internationales. Même si elles ont subi 3 défaites lors de la compétition de poule, elles ont engrangé suffisamment d'expérience pour pouvoir dominer cette compétition où les pays d'Afrique francophone pourront peut-être se consoler en pensant que des pays comme le Sénégal ou le Mali peuvent également rivaliser. Mais quoi qu'il en soit, le Nigeria est largement au-dessus du lot à l'heure actuelle dans le basket féminin, mais également dans le basket masculin où l'équipe s'est qualifiée au JO avec des joueurs NBA. Malheureusement, les résultats n'ont pas été tout simplement concluants.
Amédine, les Sénégalaises ambitieuses sont logées dans la poule C en compagnie de l'Égypte et du Gabon.
Oui, Élisée, le Sénégal qui rêve de reconquérir le titre perdu en 2017 à Bamako. Sachez, Élisée, que pour cette édition, l'objectif du Sénégal qui a rajeuni son équipe sera d'être sur le podium, hein, car le coach des Lions du Sénégal, Moustapha Gaye, a pris la décision de ne pas sélectionner des cadres comme Astou Traoré, qui est la meilleure marqueuse de l'histoire de l'Afro-Basket. Donc, elle ne fait pas partie de la sélection cette année, comme d'autres joueuses, comme Aya Traoré également. Car pour le sélectionneur national, c'est la fin d'un cycle et il faut apporter du sang neuf pour pouvoir reconquérir le titre africain dans quelques années. Donc, cette édition sera excellente.
extrêmement difficile pour l'équipe nationale du Sénégal qui a rajeuni comme son équipe. Et en face, il y aura des équipes comme le Nigeria et le Cameroun, pays organisateur. D'ailleurs, pour la petite histoire, retenez que le Sénégal a gagné son dernier titre, c'était à Yaoundé en 2015, Élysée.
Enfin, le groupe D, constitué du Mali et de la Côte d'Ivoire, sera bientôt complété par une équipe invitée. Sourama, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci Laval.
Lydie, c'est moi.
On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.